Chapitre 12. Croyez-vous qu'il soit réellement fou ? Demanda Marichette lorsqu'elle fut sortie du village. Ordinairement, je ne crois rien de ce que dit Madame Belloquet, et même je suis toujours disposée à croire le contraire de ce qu'elle dit. Mais dans le cas présent, il est probable qu'elle prend son désir pour la réalité. Ne voyez-vous pas qu'elle ne pense qu'à faire annuler le testament de Simon Belloc, si, comme cela est probable, elle est déshéritée? Voilà pourquoi elle vous demande de vous unir à elle pour poursuivre l'interdiction de votre cousin. Ce serait une grosse affaire si l'interdiction était prononcée, puisque cela supprimerait non seulement le testament qu'il a pu faire depuis sa maladie, mais encore la reconnaissance de Pierre. Que cette reconnaissance soit maintenue, Pierre hérite de la moitié de la fortune de Simon Belloc et votre cousin Sylvain et vous, vous vous partagez l'autre moitié. Qu'elle soit au contraire annulée et vous avez, votre cousin Sylvain et vous, la totalité de cette fortune à vous partager en deux parts égales, c'est-à-dire que vous avez chacun une moitié au lieu d'un quart. Je ne peux pas croire qu'il soit fou. Il y a un moyen bien simple de le savoir, c'est d'interroger son médecin. Je connais M. Dacier. Allons chez lui en arrivant. Je suis certaine qu'il nous répondra franchement. En effet, ce fut franchement et nettement que le médecin déclara que Simon Belloc n'avait jamais été fou et que rien n'indiquait qu'il fût menacé de folie, au moins pour le moment. Mademoiselle Julienne eût voulu que le médecin leur dît quelle probabilité il y avait pour que Simon Belloc mourût prochainement. Mais ce fut en vain qu'elle le pressa, il refusa de répondre. Avec des soins, des précautions, de la prudence, il peut vivre longtemps. En chemin, elles avaient agité la question de savoir comment elles agiraient pour arriver sûrement auprès de Simon Belloc, sans courir la chance de rester à la porte s'il ne voulait pas les recevoir, ce qui était possible. Et il avait été décidé qu'elles ne se feraient pas annoncer, elles iraient de l'avant. Il y avait dans Marichette une résolution désespérée qu'aucun obstacle n'arrêterait. En passant devant la maison, elles virent que les trois bureaux étaient éclairés, ceux des commis et celui du patron. Il était donc probable que Belloc était dans le sien, car lorsqu'il était absent, on faisait des économies d'éclairage. « Tenez bien mon bras !» dit Marichette. « Vous tremblez ?»« Oui, de honte, à la pensée de rentrer dans cette maison maudite. Mais ne craignez rien, devant lui, je ne verrai que Pierre. » Elles entrèrent dans le bureau, qui était autrefois celui de Paulin, et elles y trouvèrent un commis travaillant sous une lampe. « Monsieur Belloc est-il chez lui ?» dit Marichette. « Oui, mesdames. » Elles n'en demandèrent pas davantage. Allant de l'avant comme il avait été convenu, Marichette ouvrit la porte de communication avant que le commis fût revenu de sa surprise. Belloc était à sa place habituelle, lisant dans un vieux livre que Marichette reconnut pour le vieux code qu'elle avait vu si souvent entre ses mains autrefois. Il avait levé la tête et il les regardait, étonné, ne comprenant rien évidemment à cette intrusion violente. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit Marichette en serrant le bras de Mademoiselle Julienne. « Je suis Marichette !» De sa bonne main, Belloc souleva l'abat-jour de la lampe de manière à ce que la lumière frappât en plein le visage de Marichette. « Tu n'as pas changé, » dit-il. « Vous savez ce qui m'amène. Je pense qu'il s'agit de Pierre. Je viens vous demander pourquoi vous avez reconnu Pierre. Pour l'avoir. Chez vous, près de vous? Sans doute, puisqu'il est mon fils. Si vous croyez qu'il est votre fils, pourquoi l'avez-vous repoussé il y a 10 ans? Parce que j'ai été à ce moment abusé par de faux rapports, mais maintenant que je sais que j'ai été trompé, je le reconnais pour mon fils. Il ne le sera jamais. » Belloc eut un mouvement d'impatience. Ce froncement de sourcils et ce serrement de dents qu'elle avait vu si souvent en lui quand il rencontrait une contradiction, mais il ne s'emporta pas. « Ne m'exaspère pas, dit-il, ce serait dangereux pour ma santé. Si tu as un peu de raison, tâche plutôt de comprendre la situation. en reconnaissant cet enfant, j'en fais mon héritier. Que m'importe ? Croyez-vous que je veuille le vendre ? J'aime mieux qu'il perde votre fortune que de perdre sa bonté, sa droiture, son honnêteté. » Mademoiselle Julienne pressa le bras de Marichette. « Bien, bien !» disait cette pression. Du coup, Belloc se fâcha. « Je t'ai déjà dit, s'écria-t-il d'une voix plus libre, de ne pas me pousser à bout. La colère m'est mauvaise, évite-la moi. Tu sais que quand j'ai résolu une chose, rien ne me fait changer. J'ai décidé de prendre Pierre avec moi, je le prendrai. J'ai besoin de lui. Il faut qu'il apprenne à faire valoir sa fortune. Si tu avais la sottise de me le refuser, la loi me le donnerait. Je l'ai reconnu pour mon fils, il est mon fils. » Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Qui l'a fait ? En quoi l'accident de sa naissance l'a-t-il fait votre fils ? Il n'est pas plus votre fils qu'il n'est celui du médecin qui l'a mis au monde. » Une nouvelle pression de bras approuva Marichette. « Bien. » « En quoi avez-vous été son père ?» continua Marichette. « Quand vous a-t-il trouvé près de lui ? Que lui avez-vous donné ? L'avez-vous soigné quand il avait besoin de soins ? Avez-vous formé son esprit, son intelligence ou son cœur ? Qu'y a-t-il de vous en lui ? Rien, Dieu merci !» Cette fois, la pression du bras de Mademoiselle Julienne fut plus forte encore et plus longue. Ce n'était plus bien, c'était très bien, très bien, qu'elle disait dans sa fière surprise. En voulant accompagner Marichette, elle avait douté de celle-ci, non de sa tendresse maternelle, ni de son intelligence, mais de son énergie. Comment cette pauvre fille, qui avait tant souffert par ce misérable homme, dont la réputation de brutalité et de violence n'était que trop connue, se tiendrait-elle devant lui ? N'aurait-elle pas besoin d'être encouragée et soutenue ? Mais voilà que la pauvre fille tenait tête à ce violent et le dominait. Bien, très bien. C'était non seulement ce que Marichette disait que Mademoiselle Julienne admirait, c'était aussi ce qu'elle ne disait pas. Quand il avait parlé de sa santé, Marichette n'avait pas répondu un mot. Elle avait gardé un silence digne, tandis qu'elle-même, dans cette situation, n'aurait pas manqué de répliquer « Si cette explication est dangereuse pour votre santé, tant mieux. Qu'elle vous fasse crever, c'est tout ce que je souhaite. » « Il n'est pas votre fils, affirma Marichette. Il ne le sera pas, et alors même que vous persisteriez à vouloir qu'il le fût, il ne pourrait jamais le devenir. » Pour cette fois, Mademoiselle Julienne ne put se contenir, et une pression de bras ne lui suffit plus pour attester son admiration. Elle fit un pas en avant, et, étendant le bras, « Heureusement, dit-elle. » Belloc ne parut pas plus faire attention à elle que s'il ne l'avait pas vue et entendue, et il continua de s'adresser à Marichette. « Je ne veux pas te priver de ton enfant, dit-il, je ne l'empêcherai pas d'aller te voir. Il sera toujours ton fils. »« Qu'avez-vous fait de moi ? » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Une misérable, un objet de honte pour tous, une fille perdue, sans pitié de mon malheur, sans respect de vous-même, et je vous abandonnerai mon fils, que feriez-vous de lui ? Tu m'ennuies à la fin, je te croyais plus intelligente. Tu étais une fille, ton fils est un garçon. » Mademoiselle Julienne éclata. « C'est vous, monsieur Belloc, qui n'êtes pas intelligent, s'écria-t-elle. Permettez-moi de vous le dire. Comment ne comprenez-vous pas qu'une mère qui est une honnête femme ne peut pas vous donner son fils à élever parce que... » Marichette lui coupa la parole et s'adressant à Belloc sur le ton de la prière, « Vous n'avez pas eu pitié de moi, dit-elle. C'est bien, je n'étais rien pour vous sans doute. Mais cet enfant est votre fils, vous le savez, vous l'avouez. N'aurez-vous pas pitié de lui ? Non pour moi, mais pour lui, ayez-en pitié. Laissez-moi l'élever. Vous avez vu que j'en avais fait un enfant doux et studieux que ses maîtres estiment. » « Laissez-moi poursuivre ma tâche, laissez-moi en faire un honnête homme. À la fatalité de sa naissance, n'ajoutez pas des leçons et des exemples qui le perdraient. Je vous en supplie, par grâce, ne me le prenez pas !»« Tout cela, c'est de la sentimentalité bête, répondit Belloc. Ton fils ne sera pas perdu près de moi. je lui ferai une belle situation, et mes leçons, ainsi que mes exemples, ne lui apprendront qu'à accroître sa fortune. C'est un bâtard, j'en fais mon fils. C'est un crève-la-faim, j'en fais un riche. Si tu as vraiment un cœur de mère, pense à lui au lieu de penser à toi, et ne t'expose pas à ce qu'il t'accuse quand il saura la vie de l'avoir fait pauvre et bâtard, et qu'il te maudisse au lieu de te remercier. Donne-le-moi de bonne volonté, sinon, je te le répète, la loi me le donnera. Consulte qui tu voudras, tout le monde te dira qu'à l'âge qu'a maintenant l'enfant et dans la position où je suis, ce sera à moi que les tribunaux le confieront. Et moi, je vous dis que vous ne l'aurez jamais, quand même je devrais me sauver avec lui au bout du monde. » Sur ce mot, Marichette entraînant Mademoiselle Julienne, elles sortirent. Belloc réfléchit pendant quelques minutes, puis sonnant son commis, « Faites atteler Favori au coupé jaune, dit-il, et allez me chercher mon avoué. Une heure pour aller, une heure pour revenir, à 8 heures vous pouvez être de retour. Je vous attends. Dites à Monsieur Pain que c'est pour une affaire de la plus haute importance et qui doit être décidée demain. »